Je tenais à vous dire que je ne suis pas un grand habitué de ce genre d'exercice, je suis plus à l'aise avec les jeunes. Et ma voix aujourd'hui n'aide pas beaucoup, donc j'espère qu'elle va tenir encore un peu. Mais je le fais volontiers en comptant sur Dieu et en choisissant aussi des passages qui ont des implications concrètes et pratiques fortes et qui finalement s'adressent souvent en premier lieu à moi-même, et c'est tant mieux. Je préfère vous dire ça tout de suite avant de vous dévoiler le passage que j'ai choisi parce que c'est pas forcément évident. En effet, je vous propose d'ouvrir vos Bibles et de lire dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 1 à 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 12. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait, mais si quelqu'un aime parmi vous lire à voix haute, c'est volontiers que j'économise encore quelques minutes ma voix. Donc, je veux bien si quelqu'un est prêt à lire à voix haute le passage. Si on s'arrête au titre, la sanctification, ou dans certaines versions, l'appel à la sainteté, vous allez me dire, en termes de concret, de moins concret, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a de quoi donner envie de fuir. C'est pour ça que j'ai demandé de fermer les portes à clé une fois que vous étiez installés. Moi-même, j'avoue, c'est quelque chose qui m'a longtemps rebuté. C'est une belle formule théologienne, théologique, assez claire pour faire peur. Tellement ça a l'air compliqué d'y arriver, et assez flou pour ne pas vraiment savoir comment faire pour y arriver. Et pourtant, rien que dans ce passage, on le voit clairement, ce n'est pas une option. Paul est clair, il y a deux impératifs. Verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Au verset 7 également. Et au verset 8, enfin. Celui qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu. On ne peut pas faire plus clair. Mais pour revenir à mon approche à laquelle je tiens, concrète avec des aspects pratiques, je vous propose d'oublier pendant un certain temps ce terme et reprendre ce passage avec un éclairage cher au flambeau pour y trouver des indications pour progresser encore. Faire encore plus de progrès en fonction des versions ou comme celle de notre frère, qui est ma préférée aussi, marcher de progrès en progrès. On parlait tout à l'heure de courir, là maintenant c'est marcher, on est dans le thème. Nous allons le faire autour de trois notions clés qui existent aussi dans la pédagogie Flambeau, mais là on ne va pas parler de pédagogie, je vous rassure. L'engagement, la progression proprement dite et l'équipe. Je pourrais aussi dire de quelle façon l'engagement d'un côté, l'équipe ou la vie communautaire de l'autre peuvent nous aider dans notre progression avec Dieu. Il y a environ 2 ans, ma femme et moi, on a fait un constat assez net, assez clair. Notre temps passé devant la télévision nuisait, entre autres, à la qualité de notre relation de couple. Je ne fais pas du tout le procès de la télé, ce n'est pas du tout mon propos ce matin. C'était le temps qu'on y passait. Ça aurait pu être autre chose. Pour nous, c'était la télé. Bref, nous en avons beaucoup parlé, tourné ça un peu dans tous les sens et réfléchi de quelle façon nous pouvions progresser avec ça. Un soir de janvier, il y a 1 an, en arrivant chez des amis pour le repas du soir, j'ai posé un petit paquet sur la table en leur demandant s'ils étaient d'accord de nous garder ça au frais pendant 1 mois. C'était notre module télé de la Freebox. En France, c'est bien connu, nous aimons particulièrement discuter, analyser, comprendre et en espérant faire bouger les choses par nos idées. Ça fait partie un peu de notre ADN française, mais je pense que les chrétiens n'échappent pas du tout à ce constat, bien au contraire. Je dis pas que les discussions sont inutiles, elles permettent à leur manière aussi de faire avancer les choses. Mais si on regarde, que ce soit les petits changements comme les grandes révolutions, ça commence toujours pas par des discussions, mais par une décision concrète. Combien de fois on sait des choses, mais on passe pas à l'action qui permettrait de démarrer ce changement? Allez, j'y vais, je commence aujourd'hui. Parfois, c'est des décisions toutes simples. Il faut juste s'y mettre. Parfois, à l'inverse, ces décisions ont besoin d'être radicales. Et c'est pas pour rien que Jésus va jusqu'à demander à ce qu'on s'arrache un œil ou à couper son bras. Matthieu 5, verset 29. Pour nous, avec ma femme, c'était débrancher des câbles. Nous n'avions plus free, mais nous avions quand même tout compris. Cela ne nous empêche pas, je vous rassure, de suivre les aventures de Gibbs dans NCIS, hein, en replay, mais on a décidé que notre relation ne devait plus dépendre d'une télécommande. Il se trouve qu'un an après, ce module encombre toujours la chambre de nos amis. Et c'est tant mieux. Lorsque Paul parle de progresser dans la sainteté, au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, dans ma version, ou que nous sommes appelés à la consécration, le verset 7, « En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. » Il fait référence aux objets et aux personnes dans l'Ancien Testament, qui étaient choisis, mis à part et réservés pour le service de Dieu et du temple. Je trouve ce parallèle parlant par rapport au choix de suivre Jésus. Également une décision, un engagement à le suivre, à se consacrer à lui au moment de la conversion. C'est plus présent au moment de la conversion. Mais c'est également une décision que nous sommes appelés à prendre chaque matin, à la renouveler. Enfin, c'est aussi une décision que nous pouvons prendre pour faire face aux prochains défis que nous aurons à relever. Il y a la grande décision de suivre Jésus, mais il y a des décisions toujours à nouveau à prendre pour aller de l'avant. Et une première question que j'ai envie de vous poser ce matin, si aujourd'hui, dans votre tête, vous auriez une décision à prendre, concrète, pour avancer dans votre vie avec Dieu, ce serait laquelle ? S'il y avait un petit quelque chose que vous savez, mais pour lequel vous n'êtes pas forcément passé à l'action, et que vous voudriez aujourd'hui concrétiser en disant « bah oui, je vais m'y mettre et je commence aujourd'hui », laquelle serait-ce ? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir, moi aussi d'ailleurs. Alors une décision est un bon point de départ. Mais comment Paul s'y prend-il pour motiver les Thessaloniciens ? Parce que démarrer c'est une chose, il y a du boulot. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. Verset 9. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites avec tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Ça, c'était la première partie des deux versets. Et après, il rajoute à chaque fois. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur, à Jésus, progressez encore. Et la suite de l'autre verset, au verset 8. Au verset 10. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Moi, il y a quelque chose qui me gêne en termes de pédagogie. Je dis que je ne parlais pas de pédagogie, j'en fais une petite parenthèse. D'une part, il félicite, vous faites des choses, c'est bien, etc. Et de l'autre, il en rajoute une couche, et ça se rapproche de, on connaît bien ces choses-là, c'est bien, mais tu peux mieux faire. Ou, une autre façon, c'est pas mal, mais je veux que tu en fasses encore plus. C'est des choses qu'on a spontanément l'habitude d'utiliser ou de dire. On sait très bien que c'est pas très efficace et c'est pas satisfaisant. Mais je me doutais bien que Paul n'utilisait pas ça pour aller dans ce sens-là. Et j'ai plutôt cherché une explication dans la dualité, dans le double sens que pouvait avoir la sanctification. Alors, je vous ai dit moi-même, c'est pas mon genre de, c'est pas ma tasse de thé. Je suis allé voir dans le livre d'Alain Nisus qui disait sur la sanctification et j'ai vraiment trouvé deux sens que pouvait avoir ce terme, et qui pouvait expliquer du coup pourquoi Paul à la fois encourageait en parlant d'eux. Oui, il y a quelque chose que vous avez, mais à la fois il y a quelque chose à faire. Donc d'une part, il y a la sanctification comme statut acquis. Dans 1 Corinthiens 1, verset 2, je lis juste la partie, « Vous qui avez été déclarés saints par Jésus. » Ce n'est pas un truc qui est lointain et qui va un jour advenir, c'est « Vous êtes ». Il y a aussi une formule de Paul que vous connaissez probablement, qu'il utilise à plusieurs reprises. Les saints qui sont à vous, salut, etc. etc. Les saints, Donc c'est un statut. Oui, Dieu nous accorde ce statut en réponse à notre engagement qu'on a vu tout à l'heure, à le suivre. Et ce statut nous est accordé par la régénération, notre façon de dire, la nouvelle créature qu'il fait de nous quand on décide de le suivre. C'est un acquis, pas un objectif, et qui se manifeste entre autres, comme c'est dit au verset 8, par la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est un aspect. Mais de l'autre, on en est bien conscient, et c'est celui-là dont on est le plus sensible, la sanctification est un processus permanent dans lequel nous nous engageons suite à ce nouveau statut qui est le point de départ et qui ne sera achevé pleinement un jour qu'au ciel avec Dieu. Et c'est pour nous encourager que Paul utilise une forme d'impératif à deux reprises, je ne vais pas les relire, et il le fait en focalisant justement sur le processus plutôt que sur l'objectif final. Dieu n'est pas du tout du genre à nous demander l'impossible. Mais c'est souvent nous qui nous demandons l'objectif, l'impossible à nous-mêmes. Et c'est pour ça que la partie du verset que j'ai choisi un peu comme thème, marcher de progrès en progrès, je trouve cette formule parlante. Parce que justement, elle ne nous demande pas l'impossible, elle ne demande pas l'objectif final, mais d'être dans cette démarche, dans ce processus. Pour moi, ça fait aussi référence à un autre aspect qu'on utilise aussi en management, c'est la stratégie des petits pas. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un principe qui encourage à fixer des objectifs, des défis facilement atteignables en nous le faisant juste légèrement sortir de notre zone de confort. Si c'est un objectif qui est juste d'aller chercher un verre d'eau, ça ne nous fait pas sortir de notre zone de confort, ce n'est pas ça qui va nous faire progresser. Mais pas non plus un objectif totalement inatteignable qu'on pourrait atteindre dans 2 ou 3 ans si tout va bien. Des choses concrètes, à portée de main, mais qui nous demandent de nous bouger un petit peu. Et ainsi, petit à petit, avancer vers un objectif final. C'est un peu ça, la stratégie des petits pas. Marcher de progrès en progrès. On a vu une vidéo tout à l'heure. Moi-même, depuis quelques mois, je m'entraîne 2 fois par semaine à la course à pied. Mon objectif final à moi, c'est participer au Challenge Flambeau 2015. C'est une course de 10 km qui permet de récolter des fonds pour des projets pour le mouvement des flambeaux, notamment l'embauche d'un nouveau chargé de développement. Y arriver sans trop me ridiculiser. Pour certains, en fait, ça peut paraître ridicule comme objectif, courir 10 km, bon, ça ne va pas être la fin du monde. Pour moi, c'est quelque chose de physiquement quasi impossible à cause d'un problème de cœur. Pas de sentiment, hein, je vous rassure. Mon premier défi a été de m'entraîner 2 fois par semaine. Sans objectif de distance, juste, allez, 2 fois par semaine, je m'y mets, je me bouge. Ça coûtait quelque chose, il fallait y aller. En plein hiver, c'est pas toujours à Strasbourg, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir du vent, il peut faire moins 5, moins 10, etc. Vous connaissez d'ailleurs, je pense que le temps n'est pas forcément très différent chez vous. Par la suite, j'ai réussi à courir 5 km, là aussi, sans objectif, sans me stresser, mais arriver à la distance. Et puis, j'ai donné des objectifs chronométrés petit à petit. J'ai aussi eu des échecs, dont un malaise lié à mon arythmie. C'était un coup dur parce que travailler pendant 10 semaines et puis tout d'un coup, quelque chose de tout bête qui fait que tout s'arrête. C'était pas un coup fatal on challenge, mais ça aurait pu. Et avec un peu de recul, j'ai compris que j'avais sauté une étape en voulant aller trop vite dans le défi, le pas intermédiaire que je m'étais donné. Mais j'ai pu trouver la motivation en regardant aux défis précédents que j'avais successivement pu atteindre. J'ai eu le courage de reprendre des entraînements. Mais si je m'étais fixé comme seul objectif le fait d'arriver à faire 10 km en 30 minutes, j'aurais eu de très nombreuses occasions de laisser tomber et de ne jamais y arriver. D'une certaine façon, notre façon de gérer ces petits échecs, ces rechutes dans d'autres domaines, est en soi un défi. Cela nous permet de comprendre certaines choses. Et c'est également des choses qui peuvent nous aider à avancer et à progresser. Mon challenge à moi aura lieu le 17 mai prochain, lors des courses de Strasbourg. Mais par contre, nous ne connaissons pas du tout la date de notre rendez-vous avec Dieu, lors de son retour. Alors je vous encourage à ne pas attendre demain pour se mettre en route et vous décidez vous aussi à lui faire confiance pour l'itinéraire de cette course. Un dernier point sur la progression que nous pouvons voir dans ce passage, on a déjà évoqué, mais je vais insister un petit peu dessus, est la façon dont Paul s'y prend en se basant sur les acquis et les réussites de ses interlocuteurs. Il est dans une démarche positive d'encouragement. Et c'est aussi difficile qu'important, en particulier dans notre culture actuelle. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, je voulais juste le mentionner, et vous encourager simplement à le mettre en pratique. Il y a possibilité de s'encourager soi-même. Alors, on verra tout à l'heure comment s'encourager les uns les autres, mais on peut s'encourager soi-même. Et une idée pratique qui m'a bien plu et que j'ai eu l'occasion à l'une ou l'autre reprise de mettre en pratique, c'est de réaliser un mur ou une construction physique, symbolique, virtuelle, il y a différentes façons de le faire, et que chaque fois que vous avez fait un pas avec Dieu, pris une décision, relevé un défi, ou vécu quelque chose de fort avec Dieu, ou encore une réponse à vos prières, de le noter sur une brique ou sur un post-it, et de petit à petit construire un mur de ce que Dieu fait dans votre vie, et pouvoir visualiser ça concrètement. Ce que Dieu construit dans votre vie est vraiment une façon efficace de s'encourager à poursuivre la marche de la progression, et en particulier lorsqu'il y a des moments difficiles ou des échecs ou des périodes de doute. Voilà pour la progression. De même que nous l'avons fait tout à l'heure pour l'engagement, je vous propose de voir rapidement quelques implications pratiques, bien entendu, dans la façon dont la vie communautaire peut contribuer à notre progression avec Dieu. L'aspect communautaire, il y a plein de facettes. Ça peut aller du niveau de la famille spirituelle, de l'Église, mais aussi à l'autre extrémité, de la relation de couple ou de 1-1. Et c'est surtout de ce deuxième aspect que je souhaite parler, pas qu'il soit plus important que les autres, mais parce qu'il résonne de façon particulière pour moi en ce moment. On a plusieurs projets en cours de mise en place ou de facilitation de ces échanges, de ces relations 1-1 dans notre Église en ce moment. Et c'est quelque chose qui me motive. Le 1-1, si vous ne connaissez pas, c'est deux croyants qui se rencontrent régulièrement pour échanger, lire la Bible et prier ensemble pour s'encourager dans la marche personnelle. Le plus souvent, un aîné avec un plus jeune, mais pas forcément. On l'a vu, la progression spirituelle est un processus. On pourrait aussi dire, d'une autre façon, que ce processus peut aussi devenir un style de vie, une attitude. Et je préfère focaliser là-dessus que le fait de devoir être toujours au top. C'est pas plus mal, parce que je connais pas, mais je pense que ça va être assez insupportable de vivre avec quelqu'un de parfait. En tout cas, ça nous remettrait toujours face à nos imperfections à nous. Mais la gestion des échecs est importante, et elle peut être aussi une source d'encouragement dans notre relation avec un partenaire. Le fait de montrer de quelle façon on rebondit sur un échec ou sur une rechute. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous encourage d'aller beaucoup plus loin dans cette relation 1-1. Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres. Alors oui, mais bon, est-ce que ça veut dire vraiment ça ? Je trouve que c'est assez difficile de prendre déjà conscience que Dieu connaît tous mes petits secrets. Parce que vous imaginez deux secondes, tous vos petits secrets, Dieu les connaît. Mes défauts bien planqués. Certains ont fait des efforts pour les planquer, pour que personne ne les découvre. Ou bien encore mes mauvaises habitudes peu avouables. Mais de là à les révéler à un autre membre de l'Église. Et le respect privé, vous connaissez ? Et pourtant, c'est tellement puissant. Je pense que c'est pas pour rien que c'est quelque chose dont on nous encourage. Et dans certaines situations, je suis convaincu que c'est la clé pour avancer. Attention, je dis pas que quand on confesse les péchés les uns aux autres, l'autre nous pardonne. C'est Dieu seul qui pardonne, on est d'accord. Mais cela s'entend comme demander à quelqu'un de proche de prier pour pouvoir vaincre une faiblesse, par exemple. Et c'est une grande marque de confiance. En effet, si ce partenaire s'intéresse vraiment à moi et à ma vie spirituelle, il va demander des nouvelles par rapport à un problème que j'ai pu partager avec lui. Et d'une certaine façon, je vais devoir lui être redevable s'il prie pour moi et pour ce problème. Cette redevabilité, c'est un terme qu'on aime bien en ce moment, C'est une source de motivation aussi très forte. Et c'est en ça que c'est intéressant. Pour nous aider à résister à la tentation et nous aider à faire des progrès. Enfin, dans notre marche avec Dieu, vaincre les addictions est probablement l'un des exercices les plus durs, les plus difficiles. Je ne veux pas non plus commencer à aller plus loin dans ce domaine-là, mais juste pour en citer une, je veux parler un peu du piège qui nous guette tous dans l'accès à Internet. À portée de clic, tout, mais vraiment tout, du meilleur au pire et surtout sans limite. C'est extraordinaire. Mais comment nous préserver au quotidien ? Comment ne pas passer des heures entières à des choses très intéressantes, souvent parfois même très spirituelles ? Ou dans d'autres registres, comment se préserver dans le choix des contenus auxquels on s'expose ? On peut totalement s'exposer, totalement se déconnecter, comme on a pu le faire avec nous avec la télé. Mais contrairement à la télé, Internet, c'est quand même un outil utile et pour beaucoup complètement indispensable. Et je trouve intéressant d'avoir fait la découverte que ce vecteur, Internet, source de certains problèmes, peut aussi apporter des solutions concrètes. Je voulais juste mentionner l'existence d'outils numériques très utiles et très efficaces pour nous aider à bien gérer notre accès à Internet, à la toile. Et en termes de redevabilité, par exemple, en termes de redevabilité, il y a des logiciels, je voulais juste citer X3 Watch, qui envoient un rapport des sites fréquentés par vous, par moi, chaque semaine, à une ou plusieurs personnes qu'on choisit. Forme de redevabilité, une forme de on décide de se donner un objectif, c'est qu'une personne a accès à ce qu'on vit. De la même façon qu'on peut partager à quelqu'un nos difficultés, on peut aussi faire ça. Là aussi, ça commence par une décision, bien entendu, celle de cliquer et de l'installer sur tous les appareils qui ont accès à Internet chez nous, smartphone compris, bien entendu. Voilà un peu pour ces trois volets. Je pourrais résumer cette approche de la sanctification, enfin de la progression chrétienne, au travers de trois mots, engagement, progression, équipe, qui sont aussi les trois piliers de la pédagogie qu'on souhaite mettre en œuvre avec les jeunes. Et pour nous, ça pourrait aussi dire « prends une décision aujourd'hui ». Progresse par étapes et valorise les défis que tu as déjà pu relever. Ne te bats pas seul, car ensemble on est plus fort. Oui, mais cette démarche n'est possible que parce que Dieu est présent à chacune des étapes. J'en suis convaincu. C'est lui qui a fait le premier pas vers nous, en nous permettant de l'accepter et en changeant notre statut, ce statut de saint qui nous est acquis. Dieu nous demande de faire notre part, bien entendu, de relever nos défis quotidiens, mais laissons-lui le soin de nous amener à l'objectif final, la perfection un jour avec lui. Alors ne comptons pas sur nos propres forces, mais faisons équipe avec lui, comme nous l'encourage ce dernier point. Enfin, que Dieu nous accompagne chacun dans notre marche avec lui pour marcher de progrès en progrès, comme nous le rappelle ce passage, dans l'attente de son retour. Merci beaucoup.